Bonjour, bienvenue sur Tempo Goulette, aujourd'hui le 19 décembre 2024 à 14h30. Nous sommes les mini-journalistes du collège Marcel Goulette. Aujourd'hui dans la rubrique de Victor qui nous présente l'histoire à Lou. Bonjour Victor.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Tu nous présentes bien l'histoire à la loupe, n'est-ce pas ?
Eh oui, je vais animer la rubrique Histoire à la loupe.
Tout au long de l'émission, nous découvrirons deux métiers dans la rubrique Un jour un métier, présentée par Manon et Ambre. Bonjour Manon.
Bonjour Camille.
En quoi consiste Un jour un métier ?
Un jour un métier, c'est une rubrique qui consiste à interviewer des professionnels sur leur métier pour aider les troisièmes à choisir leur orientation.
Ça semble très intéressant, merci. Nous allons ensuite avec Cataleya et Alban découvrir un passionné de cinéma. Nous découvrirons ensuite le salon du livre avec Andrea, Mia et Lena, puis les activités du CDI avec Esther. Et pour terminer, nous allons avoir deux portraits, mais je vous laisse la surprise. Et maintenant, nous allons voir Esther qui nous parle du club lecture au CDI.
Bonjour à tous. Tous les mardis à 12h15, des élèves se rendent au CDI pour le club lecture du collège Marcel Goulette. Au club lecture, on peut lire des livres. On peut aussi participer à des concours comme le prix Manga Run et les prix des incorruptibles. Nous pouvons faire des sorties pour renouveler les livres du CDI, comme le salon du livre. On peut proposer aussi des résumés de livres qu'on a aimés. On peut aussi rencontrer des auteurs ou dessinateurs comme Clément Deveau, qui est le dessinateur d'Anatole Atuil. On donne aussi nos avis sur les livres avec nos coups de cœur. Madame Jogama ainsi que Madame Clotilde animent le club. Le club lecture se passe le mardi à 12h15 au CDI.
Aujourd'hui, on va interviewer des membres du club. Andrea, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous avez voulu vous inscrire au club lecture ?
Alors, j'ai voulu m'inscrire parce que j'adore lire. Et que j'avais vu l'année dernière que le club lecture c'était amusant. J'ai vu qu'ils faisaient des concours comme le prix Manga Run et j'adore les mangas. Du coup, je voulais m'inscrire pour pouvoir lire d'autres mangas.
Qu'est-ce que vous appréciez le plus au club lecture ?
Ce que j'apprécie le plus, c'est que comme les concours, donc Manga Run ou le prix des incorruptibles, c'est qu'on peut découvrir beaucoup plus de livres et que on a l'occasion de participer à des concours.
Qu'est-ce que vous aimez dans la lecture ?
La lecture, c'est un peu un monde vaste et ce que j'adore le plus, c'est que la lecture, tu peux tout trouver dedans.
Ok, merci pour cette interview. Bonjour Léna.
Bonjour.
Pourquoi tu as voulu t'inscrire au club lecture ?
Parce que j'aime bien lire et je trouvais que le principe du groupe était sympa et les ateliers proposés avec.
Qu'est-ce que tu apprécies le plus au club lecture ?
Les moments où juste on peut se caler en groupe et lire.
Qu'est-ce que tu aimes dans la lecture ?
C'est apaisant et puis tu peux vivre des aventures à travers un livre.
Ok, merci.
Et maintenant, nos trois journalistes du Salon du Livre.
Bonjour, dans la rubrique « Événements à ne pas rater ». Le Salon du Livre de Jeunesse de l'Océan Indien porté par la Réunion des Livres. C'est tenu du 10 au 13 octobre 2024 à la Cité des Arts à Saint-Denis. Le salon proposait une programmation riche et variée pour tous les âges de la petite enfance aux lycéens avec
des invités prestigieux venant de l'Hexagone, de Madagascar, de Mayotte et de l'île Maurice. Des rencontres d'auteurs avec le public scolaire. Un forum de dédicaces, des expositions et des espaces de lecture adaptés à chaque tranche d'âge. Des spectacles, projections et performances artistiques avec des lectures musicales, des contes, des spectacles dessinés, etc. Nous écoutons quelques passants.
Pourquoi vous êtes venu ici ?
Alors, moi pour deux buts, c'est-à-dire que je suis enseignante de français, donc tout ce qui est littérature, ça m'intéresse beaucoup. et aussi parce que par passion, c'est-à-dire pour ma petite page Instagram, pour faire un peu connaître la littérature.
Quel stand vous préférez ici ?
Écoutez, je viens de découvrir, moi, une auteure rayonnaise. Son livre m'a beaucoup plu, donc voilà.
Au Salon du Livre, nous avons visité plusieurs activités comme Manga Kissa, Cabane à colorier et une lecture de livres.
Nous avons aussi observé des stands comme stand des éditeurs, stand des libraires, stand de nourriture.
Les élèves ont pu faire leur achat aux côtés de Madame Jogama et Madame Clotilde.
Et tout de suite, l'interview de Clément Devaux, illustrateur, qui nous raconte sa première rencontre avec la rédaction Jamir.
Ils m'ont dit, voilà, on a une nouvelle bande dessinée, on a un projet de nouvelle bande dessinée dans le magazine. Est-ce que tu aimerais l'illustrer ? Alors moi, j'aime lire, il faut savoir que c'est un magazine auquel j'étais abonné quand j'étais petit et que je dévorais, que j'adorais, que je lisais, que je relisais. Donc, quand ils m'ont appelé, je suis tombé de ma chaise. J'ai dit, ah, super, j'adore. En plus, c'est un magazine qui est très lu, hein, ici aussi, je pense, mais en métropole, il est très très connu. Il y a des millions de lecteurs chaque mois qui lisent ce magazine depuis 1976 ou 75, je crois, que c'est un magazine ancien. Et j'ai rencontré les scénaristes de la bande dessinée qui s'appellent Anne et Olivier, qui sont frères et sœurs et qui écrivent des histoires, eux, depuis qu'ils sont petits. Et ils avaient inventé ce personnage d'Anatole qui fait des tas de bêtises. C'est un garçon qui a 9 ou 10 ans, Anatole. Mais ils ne savaient pas du tout à quoi il allait ressembler. Ils avaient juste l'idée de ce personnage avec ses copains, la maîtresse, etc. Au début, c'était vraiment dans l'univers de la classe. Et eux non plus n'avaient jamais fait de bande dessinée. Donc, on s'est rencontrés et puis le courant est tout de suite bien passé. On s'est bien entendu, on s'est aperçu qu'on avait le même humour, qu'on rigolait avec les mêmes choses, qu'on avait envie de faire les mêmes sortes de livres, qu'on avait les mêmes lectures, etc. Donc on s'est dit, on y va. On commence à faire cette bande dessinée, puis on verra bien. Peut-être que ça s'arrêtera au bout de 3 numéros de J'aime lire, et peut-être que ça continuera. Et ça a continué. Ça continue encore aujourd'hui. Voilà, donc Anatole, c'est 8 pages de bande dessinée tous les mois. Et c'est un épisode, c'est des épisodes indépendants, hein, avec un début, un milieu et une fin. On essaye que la fin, ça soit drôle, ce qui n'est pas toujours facile.
Merci. Ensuite, Manon. Bonjour Manon.
Bonjour, je m'appelle Manon Alive, Avril. J'ai réalisé l'interview de Un jour un métier. J'ai interviewé Émilie Cordier, médecin généraliste à Stella.
Pourquoi ce métier ?
Parce que quand j'étais au collège et au lycée, j'aimais beaucoup la biologie comme matière et j'aime bien aider les autres et les soigner.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?
Les avantages, c'est qu'on rencontre plein de monde, à la fois des bébés, des adultes, des personnes âgées. Et les inconvénients, c'est qu'on travaille beaucoup et souvent tard.
Comment se passent vos journées habituelles à votre travail ?
Je travaille de 8h à 18h, 19h. Et je reçois dans mon cabinet pendant un quart d'heure, 20 minutes, un patient et puis l'autre.
Quelles études faut-il faire pour ce métier ?
Il faut faire la faculté de médecine.
Combien de temps ont duré vos études ?
9 ans.
Avez-vous toujours voulu faire ce métier ?
Non. Je voulais être interprète ou détective privé.
Ok, merci, c'est tout pour ces questions.
Waouh ! Et maintenant, Victor. Bonjour, Victor.
Bonjour. Bonjour, Camille. Bonjour à toutes et à tous. Dans la rubrique Histoire à la loupe, je vous présente aujourd'hui le débarquement de Dieppe. Le 19 août 1942 a eu lieu le débarquement raté de Dieppe, qu'on qualifie de raid et non de débarquement. Les Anglais sont expérimentés en matière de Dieppe, mais celui dont je vais vous parler est catastrophique. Les Alliés comptent sur l'eff- effet de surprise de la première vague d'assaut juste avant les premiers rayons du jour. Mais en chemin, pas loin des côtes françaises, le convoi rencontre une patrouille allemande. Celle-ci ne présente pas grand danger, mais alertée par les échanges de tirs, les Allemands les attendent de pied ferme sur les plages. Les blindés arrivent avec 10 minutes de retard, mais c'est déjà trop tard. La situation a déjà viré au cauchemar. Quelques bateaux ont pu faire demi-tour, sauvant de nombreux hommes. Sur les 8000 hommes engagés, 1500 sont morts et 3000 blessés ou prisonniers. Seule la moitié réussira à rembarquer pour l'Angleterre.
Mais alors, Victor, personne ne s'était coordonné ?
Non, Camille. La coordination marine-terre-air n'était presque pas existante. Et la plupart des hommes engagés étaient canadiens. Il faut savoir que dans l'armée canadienne, la coordination n'était pas à son meilleur. Ce raid fut aussi l'occasion de tester les chars Churchill, un nouveau type de char. Certains de ces chars avaient deux bobines à l'avant pour pouvoir progresser dans les galets, mais ils ne pouvaient pas franchir le petit mur de la plage. Selon la propagande alliée de l'époque, ce débarquement fut tout de même une victoire. Il s'agirait d'une répétition pour le débarquement de Normandie. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce n'est pas un débarquement, mais un raid. La raison est simple, un débarquement à but de conquête ou de reconquête, alors que ce raid a un but de sabotage. Selon les plans alliés, les soldats devaient se replier après avoir effectué leur mission. Merci d'avoir écouté mon décryptage. On se retrouve la prochaine fois pour le débarquement en Normandie.
Merci Victor. Et maintenant, un passionné de cinéma.
Bonjour, nous sommes Catalia et Alban, deux élèves de la Web Radio.
Nous avons interviewé Monsieur Fanchier, passionné et réalisateur de films. On l'écoute.
Est-ce que c'est vous qui décidez comment le film va se tourner, comment les acteurs vont jouer et
Oui, c'est moi qui décide. Bah, le rôle du réalisateur, c'est aussi de préparer le tournage, de préparer comment on va filmer, la mise en scène, comment les acteurs vont jouer. Donc il y a une grande phase de préparation juste avant de tourner. Les acteurs, par exemple, dans mon cas, les acteurs, je les ai trouvés il y a 6 mois. Je leur ai laissé le temps d'apprendre, de lire le scénario, puis on s'est vu il y a 3 mois, on a commencé à faire des répétitions. On répétait énormément pour voir, ok, tu le joues bien, mais tu peux le jouer différemment. D'accord, ça, on peut peut-être changer cette scène-là pour que tu puisses rentrer mieux dans le rôle. En fait, c'est le réalisateur, il a surtout un rôle de direction d'acteur. Il doit pouvoir diriger ses acteurs parce que c'est un élément très important dans les films, de pouvoir savoir diriger les acteurs, savoir les guider là où il veut. C'est-à-dire que si je veux que mon acteur soit triste, il faut que je le dirige pour qu'il soit triste. Souvent, moi, j'utilise une technique que je leur demande de me parler en amont. En fait, j'ai une sorte de petite interview, de petit entretien avec mes acteurs, et je leur demande de me parler d'eux. Et j'essaie de raccrocher leur vie personnelle à la vie de leur personnage. Et comme ça, ils ont un côté beaucoup plus personnel quand ils le jouent. Voilà. Donc j'aime bien faire ça. Et puis il y a une préparation également de la mise en scène. C'est-à-dire de préparer tout ce qui va être les valeurs de plan, comme on avait vu dans l'atelier. Si on fait un plan séquence, comment on va filmer, avec quelle caméra, quelle lumière, quel son. Il faut gérer ça tout en amont du tournage. Et ça s'appelle le découpage technique. Voilà. C'est un petit papier qui est à côté du scénario, qui permet de dire, pour cette scène-là, on va filmer comme ça. Et comme ça, l'équipe technique, dès qu'ils sont sur le tournage, ils savent comment filmer.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Ben, si je peux rajouter quelque chose, c'est que pour moi, quand j'ai commencé à faire des films, je les ai faits parce que j'avais des amis qui étaient à côté de moi. C'est-à-dire que pour moi, le faire des films, la réalisation, le cinéma, c'est un art collectif. C'est pas quelque chose qu'on doit faire seul. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble. C'est-à-dire que j'avais des amis, je leur ai dit, j'ai une histoire, est-ce qu'on fait un court-métrage ensemble? Ils ont dit oui. Il y a quelqu'un qui faisait la caméra, alors qu'il avait jamais tenu une caméra de sa vie. Il y a quelqu'un qui faisait le son, alors qu'il a jamais tenu une perche de sa vie. Mais on apprend ensemble, petit à petit, et ensemble on fait un film. Le film ne pas obligé d'être bon. Le film, souvent les films et courts-métrages qu'on fait au début ne sont pas très bons, mais au moins on a fait un film, on a de l'expérience et on peut faire mieux la prochaine fois. Mais moi, ce que je vous dis, c'est si vous voulez faire un film, on dit souvent, si tu veux faire un film, apprends quelque chose qui filme et fais un film. Mais moi, je dis, au-delà de ça, c'est si tu veux faire un film, trouve des gens avec qui faire des films et trouve des gens avec qui t'as cette passion et cette envie de faire du cinéma.
Merci à Monsieur Portinier d'avoir répondu à nos questions.
Et merci à vous de nous avoir écoutés.
Et maintenant, c'est mon tour. Je vous présente les gagnants du Grand Raid de l'année dernière. Alors Aurélien, quand as-tu commencé à courir ?
Alors j'ai commencé à courir en 2011, lorsque j'étais à la fac de sport, et en 2012, j'ai commencé les compétitions.
En étant gagnant du Grand Raid, qu'est-ce qui te pousse à refaire cette course ?
Alors déjà, le parcours, j'adore le parcours, et puis le fait d'avoir gagné, ben, j'ai des super souvenirs. Et la dernière raison, ça serait le fait que l'an passé j'ai gagné, mais il n'y avait pas ma compagne et mes deux enfants, et cette année ils sont là. Donc ben, j'espère revivre un très bon moment sur la ligne d'arrivée avec eux présents cette année.
Quelles sont les difficultés que tu as traversées ?
Alors l'an passé, la principale difficulté, c'était une chute après le passage de Sillaos. Je suis tombé avant le pied du Taibit et du coup j'ai eu un bon bleu sur la cuisse. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu bien mal à une jambe et j'ai dû m'adapter avec cette douleur-là.
Et du coup, ben, les conséquences après la course quelles ont été les conséquences de cette blessure ou tout simplement de la course ?
Principalement, en fait, j'ai eu mal plutôt au pied parce qu'en fait, on traversait les rivières et ensuite on était sous la grosse chaleur, donc en fait, ça a créé des ampoules sous les pieds et puis la fin du parcours, on court sur le chemin des Anglais qui est connu pour être très dur et avec le fait de marcher avec des ampoules sur ces gros cailloux, bah, ça m'a créé des bonnes douleurs au pied. Mais mis à part ça et ma chute sous la jambe gauche, j'ai pas eu de gros problèmes physiques.
Sinon, depuis que t'as commencé à courir, est-ce qu'il y a des blessures que tu t'es faites et qui ont eu des conséquences pour le fait que tu puisses courir ou non ?
Alors, j'ai eu des blessures, oui, mais elles n'ont pas eu de conséquences à long terme. C'est des blessures qui m'ont empêché de prendre part au départ de la Géronde plusieurs fois, à trois fois. Mais c'est des blessures que j'ai su guérir voilà, en plusieurs mois, des fois. Mais c'est pas des blessures qui me gênent aujourd'hui, en tout cas.
Est-ce que, du coup, pour ces blessures, le médecin t'avait dit de faire ceci. Est-ce que tu as toujours fait ce qu'il t'a demandé de faire?
Alors je savais ce qu'il fallait faire vu que je suis kiné, et c'est vrai que les premières blessures, j'ai voulu aller trop vite, ce qui m'a valu des guérisons un peu plus longues que prévu. Et ensuite les dernières blessures, j'ai su mieux les gérer pour guérir le plus vite possible.
Qu'est-ce qui fait que pendant la course tu continues de courir, quel est ton boost pendant la course?
Eh ben, le boost, c'est d'arriver sur la ligne d'arrivée, premièrement. Et puis, le deuxième, c'est d'arriver le plus vite possible. Ça reste une compétition. Moi, ce qui m'anime, c'est le fait d'être bien classé à sa ligne d'arrivée. Donc, je me bats tout le long de la course pour essayer d'arriver que ce soit premier ou sur le podium. Donc, c'est ce qui me motive en premier. Et puis, bien sûr, découvrir à chaque fois des paysages, comme ceux de la Diagonale des Fous, qui sont à chaque fois magnifiques.
Okay. Est-ce qu'un jour, tu vas arrêter volontairement, pas à cause d'une blessure ou à cause de l'âge?
Je sais pas. Je pense que je suis assez motivé pour continuer, même si les résultats sont moins bons. J'aime avant tout faire des courses, des compétitions. Je verrai si la motivation est toujours aussi présente, si j'ai pas d'autres motivations familiales ou professionnelles autres. Mais en tout cas, pour l'instant, je me donne pas de limites d'âge.
Est-ce que t'as des conseils à donner pour les trailers, pour qu'ils puissent s'améliorer?
Les conseils, ce serait déjà de s'écouter, c'est-à-dire de faire ce qu'il leur plaît. C'est-à-dire que s'ils aiment bien courir des courtes distances, faut faire des courtes distances. Faut pas vouloir forcément faire tout de suite des longues distances. Et puis, faut savoir écouter son corps. C'est-à-dire que si on veut faire des longues distances, mais qu'on se blesse trop, que ça devient trop dur à s'entraîner, faut peut-être, faire un petit peu moins au début.
Et il y a une question que beaucoup de gens aimeraient savoir. Est-ce que t'as une formule magique qui fait que tu sois si fort dans ce domaine?
Formule magique, je sais pas, mais en tout cas, je reste toujours optimiste. C'est-à-dire, même quand je suis blessé, même quand j'ai abandonné une course, je reste tout de suite optimiste et je pense déjà à la suite. Parce que les échecs font partie du sport et c'est comme ça aussi qu'on progresse.
Ok, bah merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview.
De rien, au plaisir.
Ensuite, le portrait de Paul Watson, présenté par Thibaut.
Bonjour tout le monde, je vais vous présenter le portrait de Paul Watson. Paul Watson, le célèbre protecteur des mers, est né le 2 septembre 1950 à Toronto. C'est un officier de marine et un militant écologiste luttant pour la protection des océans. Jeune déjà, il pistait les trappeurs pour détruire leurs pièges. Ensuite, en 1968, il s'engage dans les gardes-côtes canadiens où il sert dans des navires météorologiques et des aéroglisseurs de secours en mer. En 1969, il s'enrôle dans la marine marchande à bord d'un navire norvégien, le Brie, en tant que matelot. Devenu militant chez Greenpeace en 1971, il en est exclu et fonde en 1977 son propre mouvement, la Sea Shepherd Conservation Society. Le 21 juillet 2024, il est arrêté au Groenland par les autorités danoises en raison de la seconde notice rouge émise par Interpol à son encontre en 2012. Depuis le 2 octobre 2024, le tribunal maintient Paul Watson en détention à la prison de Nuuk, le temps qu'une décision d'extradition au Japon soit prise par la justice danoise. Le 25 octobre 2024, depuis son lieu d'incarcération au Groenland, il annonce solliciter la nationalité française par une lettre à Emmanuel Macron pour être protégé de l'extradition vers le Japon. Enfin, le 17 décembre 2024, il est libéré, le ministre ayant rejeté la demande d'extradition du Japon, ce qui lui permettra de fêter Noël et le Nouvel An en bonne compagnie avec ses enfants.
Merci beaucoup. Pour notre dernière interview, c'est de nouveau Manon qui remplace Ambre qui nous la présente. Bonjour Manon.
Bonjour. Ambre Bartoli a réalisé l'interview de Un jour un métier. Elle a interviewé Jérémy Bartoli, ancien policier. Il a travaillé 21 ans à Toulouse.
Quels sont les différents postes que vous avez occupés en tant que policier ?
J'ai eu une longue carrière qui est atypique. Donc j'ai commencé par le secours montagne. Du coup, c'était basé essentiellement sur deux secours où on était en première et deuxième alerte. On était basé sur Gavarnie, Luchon, Saint-Lary. On faisait l'hiver, l'été, secours simple. Et puis après, j'ai intégré la CRS 26 à Toulouse. C'était une section à pied pour du maintien de l'ordre, proprement dit, c'était du vrai maintien de l'ordre. Et après, j'ai intégré une SPI, on appelle ça SPI, c'est une section de protection intervention. C'est un appui à des forces un peu spéciales, on va appeler comme ça. Après, j'ai passé les tests de la BRI, brigade de recherche et d'intervention, et j'ai intégré un vivier sur Toulouse où j'ai été muté à Toulouse en mars 2012. Et après, de là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et après, j'ai fini en enquêteur. J'ai été enquêteur en groupe d'appui judiciaire où je faisais des enquêtes d'atteinte aux personnes.
Comment se passe une journée en tant que policier ?
Ah, c'est très varié en fait, ça dépend comme je viens d'expliquer. Ça peut être une journée d'un CRS secours en montagne va être complètement différent que d'une journée d'un enquêteur, mais en fait ce sont des journées qui sont jamais les mêmes. C'est un métier qui n'est jamais qui est tellement vaste et où on peut se retrouver dans une zone très calme et une heure après être dans le feu de l'action. Et puis il y a tellement de corps de métier dans ce même métier que c'est très diversifié et c'est des journées qui passent à mille à l'heure. Du coup, la carrière passe vite aussi.
Quelle a été votre expérience la plus marquante en tant que policier ?
La plus marquante, c'est arrivé sur Toulouse en fait, c'est en mars 2012, donc quand j'ai intégré le commissariat de Toulouse. après mes tests. Du coup, j'ai eu le baptême du feu avec la tuerie de Ozara Atora, donc la tuerie de Mohamed Merah. C'était un attentat qui a été sur Toulouse. Et donc j'ai été primo intervenant sur cet attentat. Et après, on a été pendant une grosse semaine, un peu plus, on a été sur la recherche de cet individu, Mohamed Merah, qu'on avait localisé sur la rue Sergent Vignier, au cœur de Toulouse, secteur Joliment. Et après, on a nos collègues du RAID qui nous ont rejoints et qui ont interpellé l'individu.
Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui veut entrer dans la police ?
C'est un métier très noble. Il faut que cette personne se mette quand même une carapace assez épaisse. C'est un métier qui prend un peu de vous, qui prend beaucoup de vous, qui prend de votre âme, qui prend de votre corps physiquement, qui prend beaucoup de choses en vous. Mais c'est un métier qui est extrêmement passionnant et j'invite les gens, les futurs jeunes policiers, à le vivre pleinement, mais à rester focus sur l'aide à la personne et surtout à se préserver.
Merci beaucoup.
Pour cette première émission, à l'écriture, Victor, Mia, Andrea, Lena, Esther, Thibaut, Manon, Cataléa, Ambre, Camille et Alban. À la présentation, Camille. À la technique, Monsieur Fontaine et Kenzo. Au montage, Madame Jogama. À l'encadrement, Madame Le Galroli, Monsieur Fontaine et Madame Jogama. Avec une invitée spéciale pour cette première émission, Justine Rodier, journaliste freelance.